KS, S comme sport.
S comme sport.
Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir encore signé avec nous pour cette nouvelle heure d'émission. Alors heure ou pas, on verra. Vous savez, S comme sport, on peut dépasser, on peut faire plus court aussi. Ça dépend de nos invités et de leur projet et de leur emploi du temps. Et là, il est très chargé, l'emploi du temps de notre invité. Il s'appelle Nicolas Plein, il a 28 ans, il nous vient de Saint-Paul-de-Vars. Donc une fois de plus, on fait honneur aux locaux de l'agglomération grenobloise. Il est doctorant, il va nous parler parapente, écologie. Bonsoir à Nico.
Bonsoir Fabien.
Ça va ?
Ouais, très bien et toi ?
Ça va, écoute, on a réussi à savoir, c'est quand même incroyable.
Ouais, c'est parfait.
C'était pas gagné. Donc là, vous l'entendez, il est au téléphone, il n'est pas avec moi en studio, parce que Nicolas, il a un emploi du temps extrêmement chargé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce documentaire que vous faites, cette série de documentaires, Il faut sauver les Alpes ?
Ouais, tout à fait. Alors, Il faut sauver les Alpes, c'est une collection de documentaires qu'on a créée avec La Jolie Prod, et le réalisateur des émissions C'est pas sorcier, Échappée belle, Laurent Lichtenstein.
Rien que ça.
Et l'idée, voilà, de Il faut sauver les Alpes, c'est d'aller rencontrer des femmes et des hommes qui ont des solutions concrètes, locales et réplicables pour lutter contre le dérèglement climatique, lutter contre la pollution de l'air et préserver l'environnement.
Ça, c'est beau. Alors là, il y en a qui se disent, ils sont dans leur voiture ou chez eux, ils sont en train de se dire, mais ah oui, mais un de plus. Mais là, non, c'est pas un de plus parce que Nicolas, il fait ça de manière acrobatique, j'ai envie de dire, et de manière assez, assez marrante au final, puisque c'est en parapente que ça se passe. Raconte-nous.
Ouais, c'est ça l'idée. Donc, c'était d'utiliser le parapente comme un vecteur assez puissant pour déjà se déplacer sans moyens motorisés, parce qu'on se déplace avec les courants d'air chaud en parapente.
Exactement, oui, c'est vrai.
Pour vraiment avoir un autre point de vue sur nos montagnes, sur nos paysages, et montrer la beauté de ces paysages et avec un discours axé sur les solutions, vraiment d'écologie positive.
D'accord, oui, parce que donc d'accord, ça marche déjà, ça c'est sûr que visuellement le parapente ça parle, puisque c'est comme ça qu'on s'est connus. Je t'ai vu dans les airs, t'es avec un gros parapente blanc UGA, donc Université Grenoble-Alpes, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc ça c'est sûr que ça parle tout de suite, le parapente, à tout le monde. Et ton parapente, du coup, il te permet de faire quoi ? Y a-t-il des équipements dessus pour faire des mesures ou autre ?
Ouais, c'est ça. Alors le parapente, il nous permet trois choses. La première, c'est on l'a transformé en véritable laboratoire volant. C'est-à-dire qu'on embarque avec nous différents types de capteurs de qualité de l'air pour mesurer la pollution de l'air dans toutes les couches de l'atmosphère. Ça nous permet de nous déplacer verticalement et horizontalement. Et ces mesures, elles sont très intéressantes pour les scientifiques, justement, de l'Université de Grenoble, avec qui nous sommes en partenariat.
D'accord. Mais alors, tu montes jusqu'à combien, toi, avec ton parapente ? Parce que tu me dis dans les différentes couches de l'atmosphère.
Eh bien, ce qui est assez génial en parapente, c'est qu'on peut monter très haut. Par exemple, le 26 juin dernier, on a profité de l'épisode de canicule pour monter jusqu'à 5600 mètres d'altitude au-dessus du Mont Blanc, à Chamonix. Et ça nous permet vraiment d'avoir une vision et de réaliser des mesures dans toutes ces couches.
Incroyable ce que tu racontes. Mais alors du coup, mais il fait froid là-haut ou comment ça se passe ? Il y a des conditions spéciales ? C'est dangereux, pas dangereux ?
Bah, en fait, c'était vraiment des conditions exceptionnelles. En fait, le 26 juin, on a décollé de Plan-Prat, c'est à côté de Chamonix, à 2000 mètres d'altitude.
Yes.
Et avec les courants ascendants, qui étaient vraiment très forts ce jour-là, on a pu monter jusqu'à 5600 mètres d'altitude et ensuite atterrir sur le sommet du Mont Blanc à 4800 mètres.
Mais non.
Et là, c'était vraiment fou parce qu'il faisait 14 degrés en fait en température ressentie à 4800 mètres.
Eh, c'est pas normal ça peut-être alors si.
Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui était extrême et on a eu des records de température enregistrés par la station officielle à 50 mètres en dessous du Mont Blanc.
Ah oui, ouais, d'accord. Donc, oui. Voilà, pour celles et ceux qui doutent encore du réchauffement. Mais bon, je crois qu'ils ne sont pas nombreux. C'est plus rare que les licornes maintenant.
Ouais.
Et surtout, de toute façon, ils ne sont pas pris au sérieux et ils n'ont pas la parole. Donc, au cas où, ils restent confinés où ils sont. Une autre chose, Nico, du coup, parce que là, tu m'as intrigué. Comment tu as redécollé du Mont Blanc ou tu es reparti en randonnée ? Tu as fait quoi ?
Eh ben dans le Mont Blanc, en fait, on avait tout l'équipement pour descendre si on avait besoin de descendre sans voler.
Ouais.
Mais l'idée, c'était vraiment de redécoller du sommet pour rejoindre Chamonix une vingtaine de minutes après. Donc, on a réussi à redécoller du sommet, il n'y avait aucun souci et tout s'est très bien passé.
Ah ouais, c'est assez hallucinant ce que tu racontes.
C'était vraiment fou. Et tu veux, on redécolle du Mont Blanc. Et là, après, je passe. Donc, tu passes au-dessus de la mer de glace, tu survoles l'aiguille du Midi, tu survoles le glacier du Géant, la face ouest des Drues aussi qui s'est effondrée. Et c'est vraiment incroyable. Par exemple, à l'aiguille du Midi, à 3800 mètres, j'ai pu faire 8 tours juste autour de la construction de l'aiguille du Midi en disant bonjour à toutes les personnes qui avaient sur la terrasse en fait, de cette aiguille du Midi.
Trop drôle ça, oui, donc vraiment un bon moment.
Ouais, c'était vraiment un souvenir incroyable avec tous les copains en plus. On retrouvait des copains au sommet du Mont Blanc, on ne savait même pas qu'ils étaient là et on se retrouvait ensemble là-haut.
Ah ouais, et la mer de glace alors ? Qu'en penses-tu toi ?
Bah, c'est hallucinant, en fait, quand tu la survoles. Il y a quelques semaines aussi, j'ai décollé de l'Aiguille du Midi.
Yes.
C'était en fin d'été. Et en fait, quand tu décolles l'Aiguille du Midi, bah, tu vois le glacier qui est très ouvert. C'est-à-dire tu vois beaucoup de crevasses et tout ça. Mais la mer de glace ressemble à vraiment une mer de glace. Par contre, après, pour le tournage du premier épisode de Il faut sauver les Alpes, on était allé avec Liv Sansose, qui est une championne d'escalade, sur la mer de glace. Donc, au niveau de l'arrivée du petit train de Montanvert. Et là, en fait, on peut même plus parler de mer de glace. En fait, c'est une mer de cailloux qu'on voit.
Ah ouais, carrément.
On voit presque plus la glace.
Ah ouais, ça est triste à mourir, cette histoire.
Mm.
Mais bon, voilà, donc on va tout faire pour sauver les Alpes avec ce documentaire. Y a-t-il eu des projections déjà ou alors pas encore?
Alors, le documentaire, normalement, il sort début 2020.
D'accord.
Là, on est en train de finaliser le montage et tout ça, mais il va sortir sur Ushuaïa Télé. Et on regarde la date la plus propice pour la première projection. Ensuite, il va être diffusé plusieurs fois sur Ushuaïa Télé et dans d'autres festivals de films.
D'accord, donc une belle actualité à venir.
Ouais, c'est ça, il sera diffusé lors de la semaine du cinéma positif au Festival de Cannes. Donc
ah oui.
On a vraiment, ça va être vraiment, on espère qu'il y aura beaucoup d'impact en fait.
Eh ben, on espère aussi. On va faire une petite pause musicale, on revient tout de suite pour parler écologie, parapente et freestyle. Vous allez pouvoir savoir pourquoi je vous dis ça. C'est juste après cette petite pause musicale sur RKS et l'émission S comme sport.
RKS, S comme sport.
S comme sport.
Vous débarquez à l'instant sur RKS, S comme sport avec notre invité du jour, Nicolas Plein, 28 ans, de Saint-Paul-de-Vars, donc une fois de plus, un local de l'agglomération grenobloise. On va parler sport, on va parler écologie, puisque c'est l'émission qui veut ça. Et on a un bel invité aujourd'hui. Nicolas, toujours en forme?
Ouais, c'est vrai.
Va bien. Alors, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous parce que franchement, voilà, je t'ai découvert dans les airs avec ton parapente. On a réussi à se capter. Enfin, là, vous l'entendez, il est en téléphone parce qu'il a un bel emploi du temps. Mais on va parler, donc pour situer, tu as un parapente, tu voles dans les Alpes avec des appareils sur toi pour mesurer la qualité de l'air et autres. T'envoies aussi, t'emmènes avec toi des gens en parapente, pour des locaux, c'est ça?
C'est ça.
Pour leur faire découvrir un peu le panorama sous un nouvel angle et surtout pour peut-être la prise de conscience aussi.
Ouais, c'est ça. En fait, j'ai commencé en créant l'association En l'air pour la Terre en 2015, où l'idée, c'était d'emmener des scientifiques en vol avec moi qui pouvaient expliquer leur domaine de recherche en lien avec le dérèglement climatique de façon très simple. L'idée, c'était vraiment de faire des interviews courtes, simples et impressionnantes de pas plus de 3 minutes pour expliquer de façon très simple des sujets qui peuvent paraître compliqués.
D'accord. Donc ça, c'est des interviews qu'on peut retrouver où?
Alors ça, ces interviews, elles sont surtout sur le site enlairpourlaterre.fr.
Yes.
Ou aussi sur mon site internet nicolasplein.fr.
Parfait. Alors, tu as des petites anecdotes et qui tu as amené depuis que tu as commencé cette émission Il faut sauver les Alpes?
Voilà, donc avec Il faut sauver les Alpes et les interviews de scientifiques qu'on a fait, c'est assez marrant parce qu'en fait, on fait les interviews en parapente pour toucher un large public et pour pouvoir publier les vidéos sur les réseaux sociaux et intéresser vraiment un public aussi très jeune.
Yes.
Et au début, quand on dit ça aux scientifiques, ils se demandent « Mais pourquoi on va faire une interview en parapente ?» Donc on leur explique, et en fait, ça fonctionne assez bien. Et ce qui est aussi assez surprenant, c'est une fois, j'ai emporté une doctorante qui fait le lien entre biodiversité et dérèglement climatique.
Yes.
Et on décolle, et là, elle prend un fou rire nerveux, mais incroyable, en fait, parce qu'elle se retrouve en l'air, elle était complètement... complètement
impressionné
en fait d'être en l'air.
Ouais.
c'était assez fou. Et là, je me dis, mais on va jamais réussir à faire l'interview. On avait préparé tout le script de l'interview et tout ça. Je me dis, bah, on va quand même essayer. Là, je la lance pour sa première question.
Ouais.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est complètement mise dans son discours. Elle a oublié qu'elle était en vol. Elle a tellement oublié qu'elle était en vol que la dernière question, je lui dis, bah, on va pas pouvoir la faire. Et elle me demande pourquoi. Je lui fais, bah, parce qu'on va atterrir dans 2 secondes là, en fait.
Ah ouais, elle était en immersion totale. Ça y est.
Ah ouais, c'était hallucinant en fait. Et le fait de vraiment rentrer dans ce discours-là, ça change complètement notre approche du vol.
Bah c'est ça, parce que d'avoir les conférences, tout ça en amphi, c'est bien, mais aussi d'être sur le terrain, d'avoir l'image plus le discours qui va bien, bah on est directement dans la réalité. Ça permet vraiment aux gens de savoir ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est vraiment une très très bonne idée, vraiment.
C'est ça, le discours est vraiment beaucoup plus puissant en fait quand on a ce magnifique paysage. Et pour Il faut sauver les Alpes, là c'est encore plus vrai parce qu'on a emmené un géomorphologue en vol avec nous. Un géomorphologue, c'est quelqu'un qui va regarder, c'était Ludovic Ravanel, c'est quelqu'un qui va regarder en fait comment le dérèglement climatique et ce réchauffement va impacter les parois rocheuses en haute altitude.
D'accord.
Dans le massif du Mont-Blanc. Et c'est un guide de haute montagne aussi que j'ai emmené au-dessus du glacier des Bossons. Et en fait, il me montrait en fait ce glacier des Bossons. Quand il était petit, avec son père, en fait, ce glacier, il arrivait juste au pied de sa maison. Et maintenant, on le survolait et le glacier, il a perdu énormément. Il est 500 mètres plus haut et c'est plus du tout le même paysage, en fait.
Mais en fait, c'est bien d'avoir des gens comme ça, parce que c'est vrai que quand on est citadin ou même quand on habite en plaine, on n'est pas confronté à tout ça. Donc, de voir les images de Français, parce qu'on voit la montée des eaux ailleurs, on voit la canicule ailleurs dans les autres pays, mais on n'est pas concerné, parce que forcément, c'est pas en France, donc forcément, plus c'est loin, moins on est concerné par ces choses-là. Alors, c'est vrai que de nous mettre le nez dedans, j'ai envie de dire, bah voilà, non, en France, il y a des gens qui ont vécu ça, qui regardent ça. C'est vrai que ça peut faire une prise de conscience encore pour celles et ceux qui n'ont pas encore pris conscience.
Bah, c'est exactement ça. En fait, on montre vraiment que ce dérèglement climatique, il nous touche, mais de façon très locale aussi. Là, on ne le voit pas, mais on voit bien avec les glaciers, la fonte des glaciers en haute montagne, comme le glacier des Bossons, mais aussi autour de nous, même si on n'est pas en montagne, on a toute une perte de biodiversité qui s'opère. On a plein d'autres effets de dérèglement climatique. Et un autre levier d'action très important qu'on montre aussi dans le documentaire, c'est de parler aussi de pollution de l'air. Parce que la pollution de l'air, c'est un sujet qui va nous impacter à beaucoup plus court terme, de façon beaucoup plus locale. Et en fait, les solutions qu'on va pouvoir trouver pour améliorer cette qualité de l'air, elles vont aussi être bonnes pour lutter contre le dérèglement climatique.
Ah, t'as déjà quelques pistes, toi? T'as pu voir quelque chose avec tes invités?
Ouais, alors par exemple, on a rencontré un collectif de citoyens dans la vallée de l'Arve, le collectif de citoyens Colère Pure. Et eux, ils vont mettre en place par exemple une recyclerie. Cette recyclerie, elle va éviter de brûler des centaines de kilos de déchets dans l'incinérateur qui est à l'entrée de cette vallée de l'Arve.
Ah oui, d'accord.
Et donc ça va vraiment éviter d'émettre des polluants atmosphériques. Et en plus, on va avoir tout un cercle vertueux qui va se créer, parce que on va créer de l'emploi localement avec des personnes qui vont travailler dans cette recyclerie. On va aussi limiter les émissions de gaz à effet de serre qui sont en lien avec la construction de nouveaux produits.
Ah oui, forcément.
Et c'est ça. Et en fait, on va vraiment aussi améliorer le pouvoir d'achat des personnes qui vont acheter d'occasion plutôt que neuf. Et ça crée vraiment tout un cercle vertueux en partant à la base d'une solution qui est faite pour lutter contre la pollution de l'air.
C'est très, très, très beau, très belle initiative. C'est vrai que tout est à repenser, même les façons de consommer, de vivre, en fait, au final. Il va vraiment falloir changer tout ça. Parle-nous d'ailleurs de ça. Est-ce que tu es un peu optimiste à plan personnel?
Ouais, tout à fait. En fait, c'est vraiment sur cette thématique-là, c'est des sujets qui peuvent paraître assez inquiétants. Mais en fait, on a toutes les raisons d'être optimiste et d'avoir une démarche positive là-dessus, qui est vraiment focalisée sur les solutions. Il faut vraiment qu'on arrête de se focaliser sur le discours un peu négatif, pessimiste et orienté sur les problèmes, et qu'on ait vraiment un discours solution où on montre en fait que chacun, dans sa vie personnelle, professionnelle ou associative, peut vraiment s'investir et en fonction de sa disponibilité, en fonction de ses compétences, peut contribuer à la création ou à la diffusion de ces solutions.
Alors oui, alors sachant que on a quand même un mode de vie qui est très implanté maintenant depuis des décennies, donc ça va être compliqué de changer tout d'un coup, et ça va même être des marginaux ceux qui changent les premiers, parce qu'ils vont pas pouvoir faire comme les autres forcément, parce que s'ils utilisent moins d'énergie, moins de produits, forcément au bout d'un moment, entre ces deux personnes, ça va créer des petits fossés. Est-ce que ça va pas être une raison un peu compliquée justement pour passer le cap justement de cette écologie?
Et ben en fait, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est exactement ce qu'on a vu quand on a fait le tournage du premier épisode de Il faut sauver les Alpes.
Yes.
On a rencontré plein de personnes. Et en fait, finalement, pour la construction d'un futur plus durable, l'idée, c'est pas de tout arrêter, aller vivre dans une cabane au fond de la forêt. Hein. L'idée, c'est vraiment d'utiliser donc ce que nous a permis la modernisation, toutes les techniques qui sont utiles, et de revenir aussi à des techniques un peu plus héritées du passé. C'est par exemple ce qu'on a vu avec un apiculteur dans la vallée de l'Arve, dans une vallée à côté des Ménuires, en fait. Lui, cet apiculteur-là, il réintroduit l'abeille noire de Savoie. L'abeille noire de Savoie, c'est une abeille qui est beaucoup plus adaptée à son milieu naturel et qui va être beaucoup plus résiliente à des changements.
D'accord.
Et c'est exactement en fait ce qu'il faut qu'on fasse. Nous, c'est sans perdre en confort de vie, on peut vraiment adopter des solutions pour avoir un mode de vie plus durable et qui n'est pas quelque chose de négatif et qui va nous faire perdre en pouvoir d'achat, en confort de vie, tout ça. C'est vraiment tout un cercle positif.
Alors voilà, réapprendre à vivre en sachant qu'il ne faut pas aller dans l'extrême, parce que je regardais un article du Shift Project, me semble-t-il que c'est ça, il y a quelques jours, qui disait arrêtez de mettre, justement, tu parlais d'abeilles, arrêtez de mettre des abeilles sur les toits des villes parce qu'il y en a trop et puis ça uniformise la population d'abeilles. C'est telle abeille, pas les autres. Donc là, ce que tu dis, il y a un retour aux abeilles, mais aux abeilles locales. En fait, c'est tellement logique quand on en parle.
Mais c'est ça, en fait, c'est que des choses qui sont logiques, en fait. C'est vraiment des choses logiques. C'est ça sert à rien d'avoir tout un tas d'appareils, en fait, chez nous qui sont censés nous améliorer notre confort de vie et qui sont issus de la modernisation, mais qui finalement nous rendent pas plus heureux que ça en fait.
Ah, mais non,
c'est tout le contraire.
C'est exactement ça. Alors c'était censé. Après aussi, est-ce qu'on peut parler du marketing qui est tellement puissant ? Est-ce que ça aussi, il faudrait pas interdire, parce que j'ai peut-être tombé dans des propos trop violents là. Mais le marketing aussi, ça a un peu un lavage de cerveau. Donc ça aussi, il va falloir vraiment travailler dessus.
Ça, c'est vraiment un gros problème, en fait, parce que aujourd'hui, on est arrivé dans une société où, justement, le marketing, toutes ces pubs, nous ont fait croire que c'était essentiel, par exemple, pour avoir réussi sa vie, d'avoir un SUV.
Ah, mais ça,
les SUV, toutes les pubs, c'est hallucinant, toutes les pubs qu'on voit de SUV.
C'est
les gros 4x4, hein, les véhicules gros 4x4. Et en fait, le marketing nous fait croire que c'est grâce à ça qu'on peut avoir un statut social et réussir sa vie. Et en fait, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on change dans l'esprit des gens. C'est le symbole de réussite sociale ou des réussites. C'est pas d'avoir une grosse voiture, une grosse maison, quelque chose comme ça, mais c'est plutôt de s'impliquer dans des associations, de s'impliquer au niveau local et d'essayer de faire changer les choses pour créer un futur plus durable, en fait.
Exactement.
Et ça, c'est vraiment, le marketing doit y contribuer, en fait. Et ce que tu disais, interdire, c'est, ce serait pas, il y avait eu des propositions de loi dans ce sens-là, et ce serait pas forcément une mauvaise chose, ouais, vraiment de réorienter la publicité vers des choses qui nous aideraient à avancer vers un futur plus durable.
Eh ben, on l'espère en tout cas dans le futur. Tu sais très bien que t'es bienvenue pour venir parler de ça quand tu veux en studio. On arrivera peut-être à savoir physiquement un de ces jours. On fait une petite pause rapide et après, j'aimerais qu'on parle d'un petit truc avec toi que j'ai vu sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps. Je sais que tu sais de quoi je parle. Pause musicale sur RKS dans l'émission S comme sport. On revient tout de suite.
RKS, S comme sport.
S comme sport. De retour, si vous débarquez à l'instant dans l'émission S comme sport, on est avec Nicolas Plein, un homme venu de Saint-Paul-de-Vars, doctorant de 28 ans seulement, et qui a déjà réalisé beaucoup de choses. S'il est dans l'émission S comme sport, c'est parce qu'il parle écologie, solutions également, mais qui fait tout avec son parapente. C'est dans les séries de documentaires qui s'appellent Il faut sauver les Alpes, donc ça nous concerne pleinement. Nico, toujours en forme ?
Ouais, nickel.
C'est
super.
Bon ça. Alors on a parlé de plein de choses avec lui, donc pour celles et ceux qui vraiment arrivent à l'instant, il a un parapente avec des outils dessus pour mesurer la qualité de l'air, entre autres, et prendre plein de données. Et surtout, le plus important, c'est qu'il a fait une grosse traversée, la traversée des Alpes. Tu vas nous en parler tout de suite ?
Ouais, ouais, tout à fait. La traversée des Alpes, en fait, c'est quelque chose que j'avais comme objectif cet été.
Yes.
Et l'idée, c'était de partir de Cannes, donc la mer Méditerranée, et d'essayer de traverser l'ensemble de l'arc alpin en arrivant à Salzbourg en Autriche sans moyen motorisé.
Donc voilà, qu'avec ton parapente.
C'est ça, uniquement en parapente, en marchant, en volant et en pédalant.
D'accord. Ah ouais, mais alors comment tu le transportais, comment ton vélo ?
Et ben alors le vélo, l'idée c'est que à la base c'était juste en marchant, en volant.
Ouais.
Et donc les 4 premiers jours que j'ai fait, donc de Cannes à la frontière suisse à Chamonix, c'était uniquement en marchant et en volant.
Ouais.
Et ensuite, la deuxième partie, il y avait une météo qui était beaucoup plus compliquée. Et il y avait mon père qui pouvait faire une semaine de vacances dans les Alpes. Et quand la météo était vraiment trop compliquée pour le vol, on a pu faire un échange entre parapente et vélo.
Ah, d'accord. Donc, c'est un espèce de... Il a fait un triathlon.
Voilà, c'était vraiment génial de pouvoir avoir le vélo pour avancer parce que c'est quelque chose qui ne va pas trop t'abîmer physiquement, de faire des grandes distances en vélo.
Exactement.
Et tu vas pouvoir aussi couvrir de la distance.
Mais alors, du coup, la distance en parapente, elle est énorme. Tu es resté combien de temps dans les airs en un seul vol, par exemple ? Tu as fait combien de max ?
Donc, en parapente, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut rester jusqu'à 10-11 heures en vol, en fait, pendant une journée.
Ah oui.
C'est, on peut décoller à 9 heures le matin et poser à 20 heures le soir quand il y a vraiment des journées exceptionnelles. Et on peut parcourir, là, il y a des records de distance qui ont été battus au Brésil. Ils ont fait plus de 500 km en vol.
Wow,
sur un seul vol en parapente.
On peut partir en vacances en parapente, en fait.
Ouais, voilà, c'est ça.
Mais c'est ça, du coup, l'avenir.
Après, on est un peu soumis au courant ascendant et tout ça, donc c'est, on n'est pas trop libre d'aller où on veut.
Ah bah, c'est vrai.
Et justement, c'était ça dans les Alpes. En fait, les 4 premiers vols que j'ai pu faire, c'était des vols à peu près de 100 km chacun. Parce qu'en fait, j'étais bloqué à chaque fois par des orages.
Ah ouais.
Chaque fois, il y avait des orages qui surdéveloppaient et tout ça, et quand il y a des orages, on ne peut pas voler. Parce que ça crée des turbulences, ça crée il pleut, il y a des orages, il y a des éclairs et tout ça, donc ça nous limite en fait.
Alors, mais comment tu fais quand tu sens que ça tourne au vinaigre, tu arrives à te poser rapidement,
Alors c'est bien là le problème en fait, quand on est dans une configuration de marché-vol comme ça, on a vraiment envie de pousser au plus loin pour faire des kilomètres en vol qu'on n'aura pas à faire à pied.
Bien sûr, oui.
Et ça, donc les quatre premiers vols que j'ai faits, à chaque fois, c'était toujours une lutte contre les orages, à savoir à quel moment c'était encore raisonnable d'aller se poser. Et par exemple, là, je remontais la vallée vers Gap pour aller vers Champs-Rousses. Et là, il y a un gros cumulonimbus, donc un gros nuage d'orage qui s'est développé sur ma gauche vers le pic de Bure. Et je pensais que j'allais être plus rapide que lui. Et en fait, finalement, il m'a rattrapé. Et j'arrivais plus à descendre. Il m'aspirait dans le nuage. Donc, j'étais obligé de faire des manœuvres de descente rapide pour essayer de me sortir de cette situation.
Mais tu t'es vu mourir là, non?
Non, bah en fait, quand tu te vois pas mourir dans ces conditions-là, parce que tu dois trouver des solutions, en fait. Faut vraiment trouver une solution. T'es dans une situation qui est un peu...
En mode survie ou pas, quand même?
Voilà, t'es en mode un peu survie, en fait, faut que tu trouves une solution rapidement pour essayer de descendre. Et donc voilà, tout ton cerveau est focalisé pour trouver un moyen de descendre.
Ah purée, tu sais que rien d'en parler, ça me fait peur, bref. Mais... Hallucinant, donc ouais, pas c'est... d'autres péripéties avec... tu t'es pas fait frapper par la foudre ou pas, non?
Non, après j'ai eu un petit problème aussi, le premier vol aussi que je fais en partant de Cannes, là je pars des massifs montagneux derrière Cannes. Là je vole, ça se passe super bien tout ça. J'arrive presque au lac de Serponçon.
Yes.
Et lac de Serponçon, je vois un nuage un peu noir devant là, donc je me pose dans un alpage à 2000 mètres d'altitude.
Bien.
En me disant, je vais attendre qu'il passe.
Oui.
Donc là, nickel. Et en fait, finalement, j'avais pas vu qu'il y avait un énorme nuage d'orage derrière moi qui arrivait. Et donc, il commence à pleuvoir, machin. Je me dis, bon, bah, ok, je suis dans un alpage, là, ça va être un peu difficile s'il commence à trop pleuvoir. Et en fait, finalement, c'est parti en énorme orage avec des éclairs qui tombaient de partout. Donc, je me suis mis dans une petite ravine sur le côté.
Ah ouais.
Et en fait, finalement, la ravine, elle commençait à se remplir d'eau parce qu'il pleuvait énormément.
Oh,
et là, c'était vraiment, vraiment compliqué parce que je pouvais pas bouger à cause des éclairs. En même temps, la ravine se remplissait d'eau. Donc, ça aussi, c'était un peu compliqué. Mais cette fois au sol, même pas sans être en vol. Donc,
ouais.
Donc c'était vraiment une super expérience qui vraiment te pousse à repousser un peu tes limites de confort.
Ah, il y a quand même une ADN d'aventurier chez Nicolas Plein. C'est
génial, ouais, ce type d'expérience.
Bah ouais, carrément. Alors, on l'a vu, beaucoup de péripéties en vol, mais pas que. Pour cette traversée, tu as fait combien de temps d'ailleurs? 8 jours, France-Autriche?
J'ai mis 8 jours, ouais c'est ça. 8 jours, donc les 4 premiers jours pour aller jusqu'à Chamonix, à la frontière suisse. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai pu faire quelques vols, mais c'était surtout de la marche et du vélo.
Ah, ok, ouais, incroyable. Donc, tu veux quand même réitérer l'exploit ou non? Ça s'est fait, c'est bon?
Ouais, si on va justement, vu que la deuxième partie, à partir de la Suisse, là, j'ai pas pu beaucoup voler. L'idée, c'est d'y retourner avec des copains et de faire du vol bivouac, de se déplacer quand on aura des meilleures conditions de vol pour survoler en fait tous les glaciers en Suisse là, qui sont aussi magnifiques.
Ah oui, allez, mais je te crois. Maintenant, on se fait une courte pause musicale et on revient enfin avec le freestyle dont je voulais parler depuis tout à l'heure parce que je veux tellement d'informations sur la vidéo de toi que j'ai vue hier ou avant-hier. Je sais plus, je l'ai regardé 20 fois. Donc, vous êtes sur RKS, on parle parapente, on parle écologie, on parle freestyle, vous allez voir. Pause musicale, à tout de suite.
RKS, S comme sport.
S comme sport.
Retour avec notre invité Nicolas Plein, 28 ans de Saint-Paul-de-Vars, doctorant, qui nous parle parapente, écologie et de sa série documentaire qui s'appelle « Il faut sauver les Alpes ». Donc il prend de la hauteur avec son parapente équipé de pas mal de petites machines qui vont mesurer la qualité de l'air entre autres et qui va donner aux scientifiques, qui va faire voler avec lui d'autres personnes pour leur faire prendre conscience du changement qui est bien là. Ça on l'a tous constaté, je crois. Est-ce que c'est bien résumé rapidement?
Ouais, c'est exactement ça.
Voilà, merci, il est gentil avec moi. Nicolas Plein, j'en rêve d'en parler depuis presque une heure qu'on est ensemble. Qu'est-ce que j'ai vu sur Internet de toi? Parce que du coup, je n'arrive pas à te voir en vrai. Là, il est au téléphone, vous l'entendez. Mais donc là, j'ai vu une vidéo, ton parapente sans mêle. C'est la panique un peu à bord, tu lâches tout, donc ton parapente s'envole. Toi, tu es en chute libre et là, tu sors un parachute incroyable qui te sauve la vie.
C'est ça. En fait, on s'entraîne beaucoup avec des copains en acrobatie, donc principalement à Saint-Pierre-du-Touvet.
Yes.
Et l'acrobatie en parapente, c'est vraiment quelque chose qui est génial parce qu'elle, on va se mettre dans des situations un peu compliquées, donc comme celle dont tu parles, et on va essayer d'en sortir.
Un peu compliqué, ça c'était quand même risqué cette histoire.
En fait, c'était pas si risqué que ça parce que quand on fait de l'acrobatie, on a des nouvelles sellettes qui nous permettent d'avoir 3 parachutes de secours. Et donc là, c'était la vidéo dont tu parles. C'est en plus, c'était en fin de journée dimanche dernier. On était un peu fatigué. On avait fait une dizaine de vols dans le week-end, et là, c'était vraiment le dernier vol. Et j'ai voulu en première figure, donc c'est-à-dire la figure que je réalise lorsque je suis le plus haut. En première figure, je veux tirer un Mac Twist. En fait, c'est une figure assez assez compliqué en parapente acrobatique.
C'est un tour sur toi-même, c'est dans quel sens?
Pardon?
C'est un tour sur toi-même, non? C'est comment?
Voilà, en fait, le McTwist, c'est tu fais une prise de vitesse et ensuite tu vas essayer de faire 3-4 tours en fait pour dissiper ton énergie et faire une figure qui est assez impressionnante quand on voit de l'extérieur.
D'accord.
Sauf que cette figure, si on la réalise de façon pas rigoureuse, comme ce que j'ai fait parce que j'étais un peu fatigué là, et ben en fait, on peut prendre beaucoup de tours de twist. C'est-à-dire que le parapente va tourner, mais nous, on va pas tourner.
Ah, oh, waouh.
Et donc ça, c'est un peu problématique, comme on le voit sur la vidéo, parce que du coup, je prends 5 tours de twist. C'est-à-dire que ma voile a fait 5 tours et moi, j'en ai fait aucun.
Ah, oh, ouais.
Et donc là, je peux plus du tout...
démêler
mes freins. Voilà, j'ai plus d'action en fait sur les commandes parce que mes freins sont piégés par ces 5 tours de twist.
D'accord.
Donc en fait, ce que je fais, j'ai un bas système, ça s'appelle, c'est que je tire sur une poignée.
Yes.
Et en fait, en tirant sur cette poignée, ça éjecte ta voile. Et en s'éjectant, la voile va tirer une nouvelle voile, une voile de base jump. C'est une voile comme une voile de parapente, mais un peu plus petite.
Yes.
Et cette nouvelle voile, en fait, elle va me permettre d'atterrir tranquillement à l'atterrissage officiel et de récupérer la voile qui va tomber juste à côté de moi.
Incroyable cette histoire. Mais alors du coup, t'as bien plié ton parapente, là, t'as fait attention.
Voilà, là, on l'a bien plié, on l'a replié avec un copain et c'est super parce qu'on peut repartir du coup.
Ouais, on peut vivre, ouais, c'est vrai que c'est bien. Ouais. Alors,
en fait, c'est des images qui peuvent paraître vraiment impressionnantes, mais on est vraiment en sécurité avec beaucoup de hauteur.
Oui.
Et 3 parachutes de secours.
Voilà, c'est parce qu'il y a beaucoup de hauteur qui te permettent aussi que le parachute, le deuxième, s'ouvre aussi.
Ouais, d'avoir le temps.
Ouais.
C'est vraiment la hauteur, c'est ça qui va nous donner le temps de réagir et le temps de prendre les bonnes décisions pour se mettre en sécurité.
Incroyable de se dire plus on est haut, plus c'est sûr au final.
Ouais, bah c'est ça. En fait, plus on est haut, plus on paraît que c'est. Et en fait, plus ça nous donne de la sécurité.
D'accord, mais c'est. Moi, je te dis, j'ai vu la vidéo, j'en croyais pas mes yeux. Je dis, mais non, c'est pas vrai. Du coup, je l'ai remis. Mais je pense que je vais la partager sur la page Facebook de la radio. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore liké, les copains et copines, c'est RKS tout simplement sur Facebook, sur Instagram. On relaie pas mal les interviews de tous nos sportifs qu'on a là et même nos sportifs scientifiques et aventuriers comme Nicolas Plain. qui voilà 28 ans seulement, je le rappelle, et un homme à suivre sur Twitter, sur Facebook aussi, tu es ou pas?
Ouais, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube.
Voilà, donc pour suivre
tous les réseaux sociaux.
Voilà, pour suivre la série documentaire qui va sortir prochainement, c'est 2020. Ushuaïa Nature, t'as
2020.
Dit Ushuaïa TV.
Il va sortir sur Ushuaïa Télé au Festival de Cannes et ensuite dans d'autres festivals de films.
Et voilà, donc on suit ça de très près. Nicolas Plain, quelque chose à rajouter?
Non, c'est bon, c'est vraiment super comme émission et ça fait plaisir de discuter avec toi de tous ces sujets.
Eh ben parfait, merci beaucoup, tu reviens quand tu veux. S comme sport, c'est terminé, on vous laisse en musique, on vous dit à très bientôt. Quant à moi, je serai à l'antenne demain dès 7h jusqu'à 10h pour Good Morning Grenoble. Merci Nicolas.